Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Que s'est-il passé à Paris le jeudi 20 avril 2017 sur les Champs-Élysées? Vous ne voyez pas? Le 20 avril 2017, un homme ouvre le feu sur un fourgon de police, un des occupants est tué, deux autres sont blessés dont un grièvement, une touriste allemande est également touchée par un éclat de balle, l'assaillant est abattu, l'attentat revendiqué par l'État islamique. C'était il y a moins de 2 mois, mais le souvenir de cette attaque terroriste commence déjà à s'estomper. Rien à voir en tout cas avec le traumatisme du 13 novembre 2015 à Paris ou du 14 juillet 2016 à Nice. Alors, il est vrai que le nombre de victimes est bien moins important, mais on peut imaginer que sans les précédents attentats, l'attaque des Champs-Élysées aurait été plus durement ressentie. Or, se dire cela, c'est faire l'hypothèse que la répétition d'actes terroristes en France et en Europe finit par diluer leur impact sur la société. Est-ce de l'indifférence, de l'accoutumance, une façon de résister, d'entrer en résilience? Attentats, sommes-nous devenus plus endurants? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Gilles Ferragu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Vous avez publié en 2014 chez Perrin une histoire du terrorisme.
Tout à fait.
Pour discuter avec vous, Jérôme Truc, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez publié au PUF l'an dernier Sidération, une sociologie des attentats. Vous participez de manière très active à deux programmes de recherche autour de ces questions, hein, que vous dirigé, je crois, je ne sais pas
en
si
effet,
il y a un nom.
Le projet REAT pour réaction aux attentats qui est financé par le CNRS.
Voilà, et puis un autre programme qui est le programme 13 novembre, qui consiste en quoi en deux mots?
Suivre une cohorte de 1000 personnes pour avoir leur témoignage sur leur souvenir du 13 novembre durant 10 ans.
Notre troisième invité est au téléphone, il se trouve à Toulon, c'est Patrick Clairvoy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, spécialiste des traumatismes psychiques et de la prise en charge des victimes. Vous avez également une publication chez Talendier, c'était l'an dernier, « Tous choqués, vaincre nos peurs après les attentats ». Alors je vous explique un petit peu les raisons, enfin vous le savez, mais c'est pour les auditrices et les auditeurs qui nous ont conduits à formuler de cette manière cette émission. Il y a eu notamment le fait que l'autre jour, lorsque était évoquée cette attaque sur les Champs-Élysées, au moment où une autre attaque venait d'avoir lieu, cette fois c'était le 6 juin sur le parvis de Notre-Dame, toujours à Paris, où un homme a agressé au marteau un policier. Au moment donc de cette attaque était évoquée l'attaque précédente sur les Champs-Élysées. Je dois dire qu'en entendant évoquer cette affaire, je n'ai pas reconnu immédiatement ce qui s'était passé, et en discutant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul finalement à avoir un peu oublié cet épisode pourtant extrêmement proche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble anormal les uns et les autres? Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'accoutumance aux attentats, Gilles Ferragu?
Je pense que l'histoire nous apprend que les attentats, il y en a de manière régulière en France. On a même quasiment l'impression que la France est à l'origine du terrorisme, et ce, dès la fin du XVIIIe siècle. Et si on prend, par exemple, le cas du XIXe, je vais faire un cours d'histoire, mais on peut commencer par là. Si on prend le cas du XIXe, il n'y a pas un chef d'État qui n'a pas été, à un moment donné, la cible d'un attentat. Et il faut imaginer, par exemple, la fin du XIXe, les années 1890-1895, où en Europe, la plupart des chefs d'État sont visés par des attentats anarchistes, et quelques-uns, parmi lesquels le roi d'Italie, l'impératrice d'Autriche, le président du Conseil espagnol, meurent. Donc, il y a à chaque fois eu un climat d'attentats réguliers et récurrents en Europe et notamment en France, et ce jusqu'au XXe siècle et jusqu'au XXIe siècle. Donc on peut dire qu'on vit avec un rythme d'attentats assez fréquent.
Et est-ce que justement l'histoire nous enseigne qu'on finit par s'habituer aux attentats lorsque le rythme est soutenu?
J'ai l'impression que chaque attentat chasse l'autre. Et que, à part quelques attentats qui sont justement traumatiques, mais à l'échelle collective, mais sinon chaque attentat, finalement, chaque nouvel attentat fait que l'autre est en train de passer dans la mémoire et d'être accepté, assumé.
Jérôme Truc, est-ce que vous partagez cette impression?
Oui, moi je pense qu'il faut, effectivement, sur cette base de prise de recul historique, il y a quelque chose qu'il faut établir très clairement, qui est que si demain on devait avoir, ce que je ne souhaite évidemment pas, mais un attentat à nouveau en France de même ampleur que celui du 13 novembre, donc plusieurs centaines de personnes qui seraient tuées, vous auriez évidemment des réactions de la société française de même nature que celles qu'on a pu observer en novembre 2015. Il faut comparer ce qui est comparable, en fait. Quand vous dites que vous vous souvenez pas de l'attentat qui a eu lieu sur les Champs-Élysées, c'est un attentat qui vise des policiers. Si les gens autour de vous que vous interrogez s'en souviennent pas aussi, peut-être qu'ils sont eux-mêmes journalistes. Si vous demandez à des policiers, eux, ils s'en souviennent. On vient de commémorer l'année 1 an de l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville. Il est très vraisemblable aussi que beaucoup de nos concitoyens ne s'en souviennent pas. Pour les policiers, ça reste très présent. Donc, ce qui joue dans nos réactions aux attentats, c'est la capacité à s'identifier aux victimes. Et donc, cette capacité à s'identifier aux victimes, ça tient à une proximité qui peut être géographique, mais aussi, surtout, sociale.
Patrick Clairvoyant, on est moins donc dans une forme d'accoutumance que d'une question d'identification à ceux qui sont visés par ces attaques terroristes.
Il y a les deux. Le principe, c'est que quand il y a une attaque terroriste, la réponse que nous avons, notre organisme, à la fois physiquement et psychique, c'est le stress. On ne peut pas rester dans un état de stress permanent. Nous maintenons un état de stress tant que nous paraît persister une situation de menace qui nous vise. Après, il y a l'analyse. Est-ce que cette menace nous vise, nous, là où nous sommes, nous, en fonction de notre culture? Et le but, c'est de diminuer le plus possible notre état de vigilance et notre état d'alerte, qui est très coûteux. D'où la nécessité, bien sûr, de mettre à distance dans notre espace psychique, de mettre à distance la possibilité d'un attentat. Il est évident qu'on ne supporte pas quand ça revient. Mais aussitôt que le temps passe, notre état d'alerte diminue. Et diminuant, ça veut dire aussi que la mémoire de l'attentat est moins présente dans notre espace psychique au moment de la vie de tous les jours qui se poursuit.
Et c'est peut-être d'ailleurs d'autant plus vrai, Patrick Clairvoyant, que lorsque les attentats, les attaques terroristes se répètent à intervalles de plus en plus réguliers, même si leur gravité, je parle évidemment en nombre de victimes, est moins importante que ce qu'on a pu connaître, notamment le 13 novembre 2015, cette répétition et ce raccourcissement des délais d'un attentat à un autre, ça peut aussi jouer sur cet effacement de la mémoire.
Alors, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'en France, nous avons été de longues périodes sans attentats. Il y a eu des attentats dans les années 80, il y a eu beaucoup d'attentats dans les années de guerre, bien évidemment. Mais pour prendre l'exemple de deux pays qui ont vécu beaucoup d'attentats, Israël, mais je vais prendre l'exemple de l'Angleterre. J'ai un fils qui est à Londres et j'ai voulu l'appeler aussitôt que j'avais appris qu'il y avait un attentat à Londres pour être rassuré. Et il m'a fait la confidence suivante, il est allé chez son marchand et le marchand lui a dit « Vous verrez, vous vous habituerez ». Et ce qu'il nous indiquait par là, c'est que autant il y avait tous les attentats liés aux indépendantistes d'Irlande du Nord, les Anglais racontent qu'ils se sont habitués, et voyez, il y a cette phrase, vous verrez, vous vous habituerez, et je pense qu'il est commun, et il est même normal, et j'allais dire sain, que nous puissions nous habituer, c'est-à-dire diminuer notre état d'alerte et mettre à distance l'éventualité de cette menace qui pourtant persiste. Nous confions aux forces de police, aux forces de sécurité, à la justice, nous confions leur capacité de nous mettre à l'abri d'un nouvel attentat. Et il faut bien savoir que ce risque est persistant.
Gilles Ferragueux, est-ce qu'on pourrait dire du coup que la société, alors en l'occurrence la société française, est en train de retrouver une mémoire de ce que c'est que de vivre avec les attentats et que passer la sidération, c'est le terme qu'utilise Jérôme Truc, je vous interrogerai aussi.
Au pluriel,
sidération, au pluriel, oui, ce qui est évidemment essentiel, mais en tout cas qu'on retrouve la mémoire de ces périodes passées et qu'on réapprend finalement à vivre avec ce risque terroriste.
Oui, je crois que notre période, même assez récente, a été marquée par des attentats. On parlait tout à l'heure des attentats, la vague, quatre vagues d'attentats liés au Hezbollah en 1986. À Paris, qui étaient des attentats assez terrifiants, qui finalement ont été après dépassés par les attentats de 95, toujours à Paris, et tout aussi violents. Enfin, on s'est habitué à ça, on s'est habitué aux poubelles qui sont fermées dans le métro, on s'est habitué à Vigipirate et aux soldats qui quadrillent les gares et tous les lieux publics. Finalement, c'est devenu désormais quelque chose de naturel, de même que finalement, dans les années 70, après les premiers détournements d'avions, au début, ce qui semblait hallucinant, c'est-à-dire les portiques pour faire passer les passagers, désormais sont devenus quelque chose de tout à fait naturel. On commence maintenant à se déshabiller assez largement pour éviter tout risque. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'habitue à ces phénomènes et à ces exigences de sécurité de plus en plus importantes.
Donc l'accoutumance, elle n'est pas seulement face au risque, mais face aussi aux mesures qui sont prises pour limiter le risque.
Je dirais même surtout, en fait, c'est l'accoutumance, elle est par rapport à ces mesures qui sont justifiées par une menace qui est présentée par les politiques, par les médias, comme étant diffuse, comme étant générale. Mais ce processus d'accoutumance au niveau de la la réaction à l'événement, ce que décrivait Patrick Clairvoy, ce stress, etc., cette idée selon laquelle on serait peut-être désormais moins stressé quand on apprend un attentat, il faut bien prêter attention au fait que ce processus, il n'est pas général. On raisonne toujours là à l'échelle d'un monsieur tout le monde, d'un « on serait tous stressés face à un attentat ». Et c'est pas vrai. Ce phénomène d'accoutumance, par exemple, que donc on rapporte à Londres, il faut bien avoir conscience du fait que ça concerne avant tout les gens qui vivent à Londres. Les attentats de l'IRA, si je parle, je ne me tiens pas compte de l'Irlande, en Angleterre, c'était surtout à Londres qu'ils avaient lieu. Et après le grand attentat, le pire, celui qui reste le pire attentat qui a été perpétré au Royaume-Uni, celui du 7 juillet 2005 à Londres, vous avez des journalistes londoniens qu'on envoie dans les campagnes anglaises pour faire des reportages sur comment le vivent les Britanniques, et ils sont sidérés de constater qu'en fait, la plupart des gens sont assez indifférents par rapport à l'attentat. Ils sont sur le mode de « ça arrive dans la capitale, c'est quelque chose qui concerne ces attentats, il y a eu New York avant, il y a eu Madrid avant, là c'est Londres, ça concerne les grandes métropoles cosmopolites, ça arrivera pas chez nous dans les campagnes. » Et en France, il faut avoir aussi la lucidité de reconnaître qu'on a quelque chose de même nature. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre ce qui se passe avec les attentats de Charlie Hebdo, ceux du 13 novembre, où tout ça a lieu en région parisienne, puis ensuite Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, où là, on a des attaques qui ont lieu dans des villes de province. Et où là, des gens qui, au moment du 13 novembre 2015, peuvent être effectivement sidérés face à ce qu'ils voient à la télévision, mais pas pour autant stressés comme si ça pouvait arriver en bas de chez eux demain, parce que eux, ils vivent en province et que Paris, c'est lointain pour eux, tout d'un coup, après Nice, se disent, mais là, on n'a jamais vu ça. Ça a lieu dans une ville de province, un soir de fête populaire, c'est du jamais vu. Et là, on passe à autre chose. Et là, la sidération, c'est comme une première fois, si vous voulez, pour ces personnes-là.
Gilles Ferguet.
Avec ce constat en plus que selon la nature même de l'attentat, les choses varient. Si vous êtes en Corse, si vous êtes en Pays Basque, il y a là aussi une violence régulière, récurrente, mais qui passe complètement inaperçue. Par contre, l'attentat d'inspiration islamiste, lui, est désormais monopolise l'attention.
Patrick Clairvoy, Jérôme Truc, utilisait le terme d'indifférence. Est-ce que c'est un terme que vous, comme psychiatre, vous pouvez accepter? Est-ce que une société au sein de laquelle sont commis des actes terroristes, enfin certains membres en tout cas d'une société, peuvent être indifférents? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de pression qui est une pression indirecte, mais à se dire voilà, je dois forcément me sentir touché par ce qui vient de se passer?
Alors, le mot indifférence, je peux l'accepter, mais il faut lui enlever la connotation éventuellement péjorative qui serait celle d'un égoïsme et d'une froideur. Notre appareil psychique est fait, comme je vous l'ai expliqué, pour faire tomber le niveau de stress. Ça veut dire avoir la capacité de sortir de la présence de notre conscience l'idée d'un attentat et le souvenir ou les images même des attentats qu'on a vus. Alors plus l'attentat est violent, plus il est médiatisé et relayé par la télé, bien sûr, plus il va envahir la conscience de chacun et aussi la conscience collective. Maintenant, plutôt que de parler d'indifférence, je dirais d'une capacité à prendre une distance affective. Et ce qui est important, c'est que justement, on soit en mesure de dire « on se souvient » à travers un certain nombre de rituels symboliques, monuments, commémorations, on se souvient, mais on s'éloigne de la dimension d'horreur ou du rappel que nous avons en nous de l'effroi qu'a causé la dimension d'horreur de l'événement. Donc, l'indifférence, au sens où je l'entends, ça veut dire la capacité à s'apaiser en éloignant de sa tête le contenu atroce, horrible, cru de l'attentat et en privilégiant les rituels de mémoire, ce qu'on appelle les commémorations symboliques de l'événement. Le rôle du rituel, justement, c'est de nous permettre de vivre avec le souvenir sans garder l'horreur.
Jérôme Truc, par rapport aux cohortes sur lesquelles vous travaillez, est-ce que vous constatez justement que ce travail-là, il existe, peut-être même sans doute d'ailleurs le plus souvent inconsciemment, mais que...
Alors pour l'instant, sur ces entretiens-là qu'on fait dans le cadre du programme 13 novembre, c'est trop tôt pour en parler parce qu'on n'a fait qu'une première vague d'entretiens et qu'on ne l'a même pas encore analysé dans son intégralité. Par contre, ce qui est très clair et ce qu'on peut voir à travers les autres enquêtes, parce qu'il y a tout plein d'enquêtes qui sont en cours, à la fois sur les personnes qui ont été directement impliquées dans les attentats, qui en ont été victimes, qui ont été endeuillés, qui l'ont vécu au travers des médias, c'est qu'on observe que le traumatisme, d'un point de vue psychologique, il correspond à des symptômes très clairs qu'on connaît. Et ces symptômes, des fois, on les observe plus intensément chez des personnes qui ont vécu par procuration les attentats, les attaques par la télévision, qui en ont été téléspectateurs, plus intensément que chez des gens qui en ont été directement rescapés. Voilà, il y a des gens qui sont plus résilients et d'autres qui sont plus traumatisés, plus résilients parmi les victimes, les personnes directement impliquées, et d'autres qui sont plus traumatisés parmi ceux qui l'ont vu au travers de la télévision. Et ça, je pense que c'est très important d'en avoir conscience, de comprendre ça. Le concept de traumatisme, Il est très pertinent à une échelle individuelle, il correspond à un processus psychologique dont il faut rendre compte, avec des formes pathologiques, évidemment. Mais je pense que si on bascule directement, on généralise à une échelle collective, on rate quelque chose. Parce que très souvent, le discours consiste à dire « nous sommes tous concernés » ou face à un événement comme ça, l'événement 13 novembre est traumatique, et donc, parce qu'il est traumatique, il y a un traumatisme collectif forcément. Et je pense que si on commet cette généralisation, on rate quelque chose. On rate le fait qu'il y a une manière de répondre aussi à cet événement, selon la position sociale qu'on a par rapport à l'événement, qui consiste à être assez naturellement, finalement, indifférent ou moins concerné, moins traumatisé que ne le sont d'autres.
Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Fergus ?
Oui, il y a une forme d'accommodement, et un accommodement qui varie selon le rapport qu'on peut avoir avec un événement. Ça peut être effectivement une date de naissance, ça peut être une profession qui est particulièrement visée, ça peut être un quartier dans lequel on est. En fait, à partir du moment où on est une cible, et toute opinion publique est la cible d'un attentat, il y a des cibles qui sont, entre guillemets, plus prioritaires que d'autres.
Patrick Clairvoy, ne pas vouloir peut-être en tout cas régler le traumatisme à l'échelle d'une société, mais en faire à chaque fois des affaires individuelles, est-ce que ça vous semble la bonne chose? Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, que dans la dernière édition du plan Vigipirate, qui est assez récente, hein, ça date de fin 2016, c'est le citoyen, c'est-à-dire c'est chaque individu qui est placé au cœur de la prévention de la menace terroriste, c'est-à-dire il y a une forme d'individualisation de la prise en charge de ce que c'est que de vivre aujourd'hui avec cette menace?
Alors pour moi, le mieux, c'est de faire des allers-retours réguliers entre le niveau individuel et le niveau collectif. La réponse collective, elle peut être une surprise, mais par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, la surprise qui était énorme et qui a créé une cohésion, qui nous a aidés d'ailleurs psychiquement à accepter l'idée de cette menace, c'était le « je suis Charlie ». Et il y a eu un côté presque universel en France, je dis presque, mais qui est « je suis Charlie ». Et ça a permis à l'ensemble des gens qui ont été touchés par l'attentat. Je rappelle que le mot « terrorisme », le but du terrorisme, c'est de terroriser. Et effectivement, les attentats de Charlie Hebdo ont apporté un sentiment de terreur à tous les Français qui connaissaient ces gens-là, qui connaissaient Camus, etc. Et la réponse collective « je suis Charlie », ça nous a tous rassurés à un niveau individuel de voir qu'il y avait une réaction collective extrêmement forte. Et donc, à chaque fois, il faut valoriser, bien sûr, ce qui est singulier à l'échelle de l'individu, en fonction de sa culture, de son lieu, de la distance qu'il a culturellement, plus que géographiquement d'ailleurs, avec l'attentat, mais aussi avec l'ensemble des réponses collectives qui nous soulagent et qui nous rassurent de savoir qu'il y a des gens près de moi qui peuvent m'aider et me comprendre.
Gilles Fergus et Jérôme Truc, ces marques de solidarité collective, alors vous qui êtes historien, Gilles Fergus, qui avez écrit cette histoire du terrorisme, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve justement là aussi dans la façon dont la société française a pu réagir par le passé à des attaques, ou bien vous diriez que c'est quelque chose de plutôt récent, c'est-à-dire effectivement le « je suis Charlie », alors bien sûr les réseaux sociaux n'existaient pas auparavant, mais ou même le fait de faire un mémorial, comme l'a fait le journal Le Monde en reprenant l'histoire de chacune des victimes des attentats du 13 novembre, est-ce que ça c'est plutôt quelque chose de nouveau dans la façon d'appréhender justement suite de ces attaques?
Je pense que l'émotion collective qui est liée à l'attentat, elle est ancienne, c'est-à-dire que dès le 19e siècle et plus encore au 20e siècle, on voit des gens réagir. Je pense par exemple à l'attentat qui défigure la petite Delphine Renard, un attentat qui est lié à l'OAS, la réaction des populations, voilà, tout à fait, elle est très efficace. Par contre, effectivement, il y a des nouvelles formes de réaction, il y a des nouvelles formes de présentation de l'émotion, en particulier ce fameux mémorial, je crois que c'est au 11 septembre 2001 qu'on voit émerger ce type de pratique.
C'est le New York Times qui le fait pour la première fois et qui reçoit le prix Pulitzer pour ça.
Voilà, donc c'est après les pratiques se développent et elles se développent aussi avec le développement de certains médias qui vont accompagner ça et qui vont favoriser justement une participation de chacun. Même si bon, la presse va faire un geste, mais si chacun peut faire un geste via des réseaux sociaux de plus en plus développés, ça participe justement de cette participation.
Gilles, m'arrêtera si je dis une bêtise par rapport à ça, mais je crois aussi que du coup, ce qu'on voit basculer avec ces mémoriaux aux victimes, parce qu'effectivement, si le Monde le fait après le 13 novembre et après Charlie, c'est aussi parce que The Guardian et la presse britannique l'a fait après l'attentat de Londres en 2005, et parce que El País, El Mundo l'ont aussi fait en 2004. Voilà. S'inspirant tous en cela du New York Times en 2001. Je pense que ce qu'on voit dans ce basculement aussi, c'est le fait que auparavant, après un attentat, dans la presse, on parlait surtout des terroristes eux-mêmes. Qui sont-ils? Quelles sont les raisons de leurs actes? Au moment du 19e siècle, au moment des attentats anarchistes, c'est essentiellement de ça dont on parle. Qu'est-ce que c'est que cette secte anarchiste? Quelles sont leurs motivations? Aujourd'hui, on voit quand même que le traitement médiatique est beaucoup plus centré sur les victimes. Qui sont ces victimes anonymes? Même dans les années 90, on n'a pas autant de portraits qui nous racontent qui sont les personnes qui sont décédées, qu'est-ce qu'elles faisaient dans la vie, etc. Et ça, évidemment, le fait qu'on ait autant de portraits de victimes aujourd'hui, ça amplifie les mécanismes d'identification et les mouvements de cohésion, d'expression, de compassion, de solidarité adressée aux victimes.
Ouais. Et d'autant plus que voilà, lorsque il n'y a pas encore de gros médias comme au 19e, la manière dont les gens marquent leur émotion, c'est aussi en allant assister au châtiment des coupables, que ce soit au tribunal, ce qui permet d'ailleurs aux terroristes d'en faire des tribunes pour exposer leur idéologie, et que ce soit après surtout au moment de la condamnation à mort. Donc là, c'est une autre manière de gérer le trauma.
Il y a eu une manifestation de solidarité collective qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Enfin, c'était il y a à peine 48 heures au Stade de France lors du match de football entre la France et l'Angleterre. La garde républicaine française qui chante une chanson d'Oasis, groupe de Manchester. Je ne sais pas si tous les trois, Gilles Ferragut, Patrick Leroy et Jérôme Truc, vous avez vu ces images. Moi, je dois dire qu'au départ, quand on voit la garde républicaine qui va interpréter un titre d'Oasis, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça risque d'être un petit peu à côté de la plaque. C'était en hommage, bien sûr, aux victimes de l'attaque terroriste de Manchester. Et puis finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une force émotionnelle qui était assez incroyable dans ce moment-là. Est-ce que ces moments-là, ils sont importants pour vous, Patrick Leroy, d'exprimer une solidarité, si ce n'est immédiate, mais enfin, en tout cas quasi immédiate à l'égard des victimes?
Bien sûr, c'est important, je dirais même que c'est essentiel. Pour en revenir au fondement, le terrorisme, ce sont les actes de population avec une faible cohésion sociale qui s'attaquent à un groupement qui, lui, est un groupement à forte cohésion sociale et à forte puissance, bien sûr, puissance économique, etc. Et donc, la seule ou la première réponse que l'on a donnée quand un attentat nous a touchés, c'est immédiatement de faire parler, de faire surgir, de faire manifester cette cohésion collective que nous avons. Et c'est comme on a vu les bandes aides, enfin, puisque donc vous parliez de la reprise d'une chanson comme ça dans un stade, mais ces manifestations où tous ensemble, on éprouve une émotion transportée par la musique, par le chant, ou par de très forts symboles qui nous touchent, c'est très important, et c'est ça qui nous guérit. C'est ça qui nous permet de nous rassurer en disant « Nous sommes touchés, mais nous sommes forts de notre cohésion, et nous saurons continuer à faire face à la menace qui, elle, persiste. »
Gilles Ferragut.
Avec aussi cet aspect nouveau, qu'avant, c'était plutôt la minute de silence, mais qu'une minute de silence, ça peut se troubler, alors que par contre, une musique générale, ça ne se trouble pas.
Si vous permettez aussi par rapport à ça, c'est vrai que c'est des rituels donc de commémoration, de deuil collectif qu'on retrouve après chaque grand attentat, en tout cas en Occident. Une fois encore, si on compare ce qui est comparable, on a l'équivalent après le 11 septembre des attentats de Madrid et Londres en 2004-2005. C'est des choses très récurrentes. Mais il faut faire quand même attention à une chose, c'est que ces rituels ont une dimension très normative. On entend d'ailleurs, je pense là dans l'analyse qu'en propose Patrick Leroy, c'est que il faut, on en a besoin pour rassurer le corps social, pour montrer la cohésion face à une attaque qui vise justement à affaiblir la cohésion. Le problème est que si on n'analyse pas, si on ne prend pas non plus du recul par rapport à cette charge normative, elle peut aussi produire son contraire. On l'a très bien vu justement au moment des attentats de janvier avec le mouvement « Je suis Charlie ». Effectivement, il y a un grand mouvement « Je suis Charlie », mais il n'est pas si universel et général qu'on le prétend. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas forcément dans le « je ne suis pas Charlie », mais qui sont relativement indifférents, à qui le mouvement « je suis Charlie » peut faire violence, notamment parce qu'il est amplifié par les médias. Il est amplifié par les médias parce que les attentats, au départ, visent des journalistes. Et donc, dans ces moments-là, le renforcement de la cohésion sociale, il a aussi son revers de la médaille, qui est le durcissement des certaines tensions sociales chez ceux qui ne se retrouvent pas complètement dans le mot d'ordre général. Et c'est pour ça qu'il est donc très important aussi dans ces moments-là, de réfléchir à ce qu'on entend par nous. Parce que quand on dit « nous sommes tous Charlie, nous sommes ensemble, c'est très bien, nous sommes tous concernés », il faut toujours prêter attention au fait que c'est Benveniste qui disait que le « nous » est une dilatation du jeu. Et en fait, on raisonne toujours par rapport à soi. Dans ces moments-là, on a sa réaction par rapport à l'événement, on est très concerné ou on est relativement indifférent, puis on regarde autour de soi et puis on se rend compte que les gens dans notre entourage social, le monde social est bien fait, raisonnent plus ou moins de la même manière, et donc on se dit « c'est merveilleux, nous sommes tous Charlie ». Mais d'autres, pendant ce temps-là, le sont pas. Et quand on s'en rend compte, et quand on est dans un registre assez normatif, très vite, les choses s'enveniment et des tensions, du coup, peuvent apparaître.
Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi un autre revers mettrait aussi en lumière l'absence d'expression de solidarité collective sur certaines attaques terroristes qui sont peut-être de moindre ampleur, mais qui peuvent justement être vécues d'autant plus cruellement par ceux qui les ont subies. On rediffusait il y a quelques jours de cela une interview qu'on avait faite avec la présidente du CRIF à Toulouse au moment de, je ne sais plus quel était l'anniversaire précisément, mais des attaques de Mohamed Merah qui avait notamment massacré ces jeunes juifs et qui nous avait expliqué à l'époque qu'il s'était senti très seul justement après ces actes, parce que la solidarité nationale ne s'était pas exprimée à ce moment-là. Patrick Leroy.
Oui, alors évidemment, la vraie question, c'est combien de temps doivent durer ces manifestations collectives, parce que comme vous l'avez dit dans l'intervention précédente, ça peut créer des tensions et des phénomènes d'usure. Et l'idée quand même, c'est qu'il faut que les phénomènes à l'échelon de l'événement proprement dit soient assez courts et qu'ils soient repris à l'échelle du collectif. C'est pour ça que tout est fait en France, notamment c'est François Rudetsky qui fait un effort là-dessus, pour qu'il y ait un lieu de commémoration. C'est la statue qui est dans un square près des Invalides, et qu'il y ait aussi une date, et elle propose même qu'il n'y ait pas une date nationale, mais qu'il y ait une date européenne de commémoration des victimes des attentats.
Il y a par exemple une date qui est proposée, alors il y en a plusieurs, mais notamment celle du 19 septembre, en référence à l'attentat contre le DC-10 du TA, c'était en 89, donc 19 septembre, qui pourrait être une journée nationale de commémoration.
À laquelle il y a des commémorations, effectivement, il y a des commémorations ce jour-là, comme le 11 mars 2004.
Mais qui sont liées à cet attentat, qui ne sont pas...
La journée, l'hommage national en France aux victimes du terrorisme a lieu, comme aux Invalides, devant ce monument, à chaque 19 septembre. Voilà. Et vous avez aussi une date européenne qui existe.
Ah bah vous voyez, je pensais que c'était une commémoration des victimes de cet attentat-là.
Non, du tout. Elle existe et c'est pour ça que là, après l'attentat de Nice, par exemple, en septembre dernier, il y avait cette commémoration-là où toutes les victimes étaient représentées et où particulièrement étaient présentes celles de l'attentat de Nice. Mais en fait, comme cette date ne fait pas sens pour grand monde, en fait, les gens ne la retiennent pas et ne comprennent pas à quoi ça renvoie, en fait.
Il y a aussi une médaille. Il y a une médaille des victimes du terrorisme.
Oui, donc finalement, il y a des dispositifs.
Il y a des dispositifs officiels, institutionnels,
tout à
fait fixés.
Mais sans doute que ceux qui sont finalement directement concernés par ces dates-là, par ces actes-là, eux réagissent différemment, en tout cas ont une meilleure connaissance de ce qui est proposé du point de vue justement de la solidarité collective. Je voudrais évoquer un autre aspect de la discussion qu'on mène ce soir. Je vous rappelle la question qu'on pose, attentat, sommes-nous devenus plus endurants? Je dois dire d'ailleurs que ce terme d'endurance, c'est vous qui nous l'avez soufflé, Patrick Leroy, parce qu'on cherchait un petit peu comment formuler. Je ne savais pas s'il fallait parler de résilience, d'accoutumance, d'indifférence, puis on a retenu celui d'endurance. Et je rappelle que nous sommes en compagnie de l'historien Gilles Ferragut, du psychiatre Patrick Leroy et du sociologue Jérôme Truc. Il y a un autre moment, moi, qui m'a semblé assez symptomatique de la façon dont on finit un peu par s'habituer vaille que vaille à cette menace terroriste. C'est un article de Libération du 6 juin dernier, donc là c'est encore plus récent. Article de Libération titré « Attaque terroriste devant Notre-Dame », donc c'est quand ce policier, j'évoquais au début, attaque au marteau, donc quand cet individu attaque au marteau un policier. Et donc l'article est intitulé « Attaque terroriste devant Notre-Dame », mais c'est un article qui est assez court et qui est relégué en page 19 sans aucun appel en une. Est-ce que ça peut aussi vouloir dire qu'il y a également d'un point de vue médiatique, les attaques terroristes deviennent des événements non pas comme les autres, mais qui se normalisent, disons Gilles Ferragut?
Alors, sans aller jusqu'à se normaliser, qui glisse de la une, finalement, à la chronique criminelle, voire, entre guillemets, aux faits divers. Et ça aussi, on le voit, à partir du moment où vous avez des grands attentats, où il y a une mise en scène, c'est un spectacle aussi, l'attentat, dans une certaine mesure, un spectacle terrifiant, mais un spectacle. À partir du moment où la mise en scène n'est pas là, où le spectacle n'est pas là, et l'une des spécificités actuellement de l'organisation État islamique, c'est de faire des attentats du pauvre, entre guillemets, avec peu de moyens et qui sont uniquement fondés sur le... Voilà, sur des activistes qui passent tout à coup qui passent à l'action. À partir du moment où il n'y a pas tout le décorum de l'attentat traditionnel, je pense qu'au bout d'un moment, les médias ne suivent plus.
Oui, je vous disais tout à l'heure que la réaction d'une société à un attentat, elle tient aussi, par exemple, au fait qu'on montre les portraits des victimes, qu'on nous raconte leurs histoires. On ne peut pas parler de l'attentat en soi sans tenir compte de sa médiatisation, de comment il se constitue en événement public et médiatique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a toute une réflexion qu'ont les journalistes, mais souvent de manière un peu confuse, sur la qualification des faits et l'importance qu'on leur accorde. Pensez, quelques mois encore auparavant, à l'attaque à Westminster, où il y a tout un débat à la BBC sur est-ce qu'on en fait pas trop, parce qu'au bout du compte, finalement, il y a assez peu de morts. Il y a, on vise un policier à la fin. Est-ce que ça vaut le coup de faire toute l'antenne là-dessus? C'est pas comme s'il y avait des centaines de morts. Et là, on est dans le même registre. Vous avez d'un côté une attaque à Notre-Dame. Ça fait des heures d'antenne sur BFM TV. Finalement, on se dit, il n'y a pas de morts. C'est une agression sur un personnel des forces de l'ordre. Libération estime que c'est une ils ne disent pas attentat, mais attaque à caractère terroriste, et ça fait l'objet donc d'un petit article en page 18. C'est la vraie question de la qualification des faits. Si on prend ça de manière brute, je vais le dire sur le mode un peu anecdotique, mais j'ai un petit garçon qui a 3 ans, les images de vidéosurveillance de la place de Notre-Dame ont été diffusées à la télévision, il a vu ça, lui en voyant ça, du haut de ses 3 ans, il m'a dit « Papa, c'est une bagarre ». Il m'a pas dit « attentat », il sait pourtant que je travaille sur les attentats, mais il m'a dit « bagarre ». Et je pense que voilà, on le mettrait face à des images, ce que je ne ferais pas des attentats du 13 novembre, il me dirait pas que c'est une bagarre.
Patrick Clairvoy, la façon dont les faits sont qualifiés, ça va avoir une incidence sur la façon dont les individus et plus largement peut-être la société va digérer, disons, ces événements?
Oui, il y a une réalité très crue, c'est que un attentat avec personne pour le médiatiser, il n'a aucune portée.
Tout à fait.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de jeu dont on ne sait pas trop bien comment agir dessus, où de toute façon le terrorisme va nous toucher là où il a la garantie d'avoir une médiatisation, parce que, ben, j'allais dire, la foule est touchée, ou alors le symbole, puisqu'on parlait des attentats du 19e siècle, le président de la République, le président du Conseil, Sadi Carnot, voilà, ou la princesse Sissi, ou l'empereur d'Autriche à Sarajevo, tué par Gavrilo Princip, eh bien, c'est par la figure, autrefois, il y a un siècle, c'était par la figure touchée qu'on essayait d'avoir un impact, que les terroristes voulaient avoir un impact. Aujourd'hui, ils ont un impact sur les manifestations de collectivité. C'est pour ça que les grandes messes musicales, les concerts, ou la culture, qui est par exemple la culture d'aller prendre un pot près de la Bastille, les terroristes visent ce qui nous appartient comme temps intime. Ils nous bousculent dans notre temps intime. Ils nous rendent inconfortables l'idée qu'on peut être tranquille dans un espace intime. C'est ça le but du terrorisme. Et seule la médiatisation, c'est-à-dire je ne peux être touché par un attentat terroriste que si j'en ai connaissance, bien évidemment. D'où le dilemme des journalistes de savoir jusqu'où et comment puis-je faire mon métier d'apporter l'information sans faire le jeu des terroristes.
Il y a effectivement quelque chose de tout à fait juste là dans ce que dit Patrick Clairvoy, c'est que bien souvent les terroristes, pour démultiplier l'impact de leur acte, hein, c'est Raymond Aron qui disait qu'un acte terroriste, c'est un acte dont l'impact psychologique, socio-psychologique est décuplé par rapport à son impact réel, matériel, cherche à frapper des symboles, à frapper symboliquement. Si on réagit comme on réagit à Charlie Hebdo en janvier 2015, c'est aussi parce que les journalistes sont des symboles, ils incarnent la liberté d'expression, etc. Et c'est là où il faut faire attention aussi, quand du coup on dit, on a beaucoup dit après le 13 novembre, là c'est différent. Vous parliez tout à l'heure de Mohamed Merah, des attentats de Mohamed Merah à Montauban. C'est très important, Montauban et à Toulouse, c'est très important de le dire. Dans un cas, après Charlie Hebdo et l'hypercacher, on dit oui, là c'était des policiers, c'était des juifs. C'est pas pareil que le 13 novembre où on s'en prend ces attentats à l'aveugle. Ce sont des attentats de masse, mais est-ce qu'ils sont pour autant à l'aveugle? Certaines personnes se sont senties plus concernées que d'autres parce qu'on s'en prenait à des gens dans une salle de concert. Donc si vous êtes vous-même musicien habitué à des concerts, vous vous identifiez plus, parce qu'on s'en prend à des gens des terrasses de café un vendredi soir. Tout le monde ne va pas en terrasse de café le vendredi soir. Si vous êtes des jeunes pères de famille, des jeunes parents en province, le vendredi soir vous êtes fatigué, vous restez chez vous face à un DVD, vous vous identifiez pas aux victimes. Par contre, si vous êtes plus âgé avec des enfants étudiants dans des villes de province qui peuvent aller prendre des verres le vendredi soir, là vous vous identifiez. Tout ça pour dire qu'en fait, les attentats de masse nous choquent plus parce qu'ils sont de masse, qu'ils font plus de morts et qu'ils sont pour cette raison-là plus médiatisés. Mais est-ce qu'ils sont toujours pour autant à l'aveugle? C'est très compliqué. Sociologiquement, monsieur tout le monde, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de on. Et donc en fait, même quand on tue plus de personnes, souvent les gens vont se sentir plus concernés parce que les personnes qui sont tuées ont des caractéristiques sociologiques particulières. Après Nice, c'est pareil, ce sont des jeunes, des familles, et c'est ce qui fait que des gens se sentent particulièrement touchés.
Est-ce que le « on » ne le trouve pas néanmoins, alors si ce n'est par rapport à la façon dont on va vivre ces traumatismes, et pas toujours d'ailleurs de manière traumatique, mais davantage dans les comportements individuels. Est-ce qu'on observe justement des modifications de comportement? Alors là, je vais faire une référence avec ce que j'ai pu lire par exemple, parce que c'est vrai qu'on y revient quand même assez souvent sur la façon dont la société israélienne vit avec les attentats ou a pu vivre avec les attentats. Et il y avait un article du Monde en novembre 2015, justement après les attentats au Bataclan, un témoignage d'une Israélienne qui avait échappé à une attaque et qui disait par exemple, ça m'a semblé assez significatif, je ne porte plus que des baskets et des chaussures plates pour pouvoir courir au cas où. Mais est-ce qu'on observe voilà, des modifications du comportement dans la vie quotidienne, Gilles Ferragu, quand il y a des périodes comme ça d'attaques terroristes répétées?
Il y a tout un discours déjà sur les lieux qui peuvent être des cibles du terrorisme. Et on a en plus la presse terroriste elle-même, en tout cas la presse de l'organisation État islamique, annonce régulièrement qu'elle va cibler tel ou tel endroit, tel ou tel site, telle ou telle manifestation. Donc il y a maintenant une attente vis-à-vis de ça, enfin pas une attente, mais plutôt une méfiance vis-à-vis de ça. Je pense que petit à petit, la population s'adapte et commence à considérer, c'est cette frontière un peu bizarre entre l'état de paix et l'état de guerre, on n'est certes pas en état de guerre, mais a tendance à considérer qu'il y a des lieux qui sont plus exposés. Ça, c'est rentré dans les mœurs.
Voilà, par exemple, les transports où on peut parfois être un peu inquiet si on voit un bagage dont le propriétaire n'est pas clairement identifié. Et ça, on peut être tenté, par exemple, de sortir du métro.
Et ça, en même temps, c'est pas nouveau. Pour nous, en France, ça remonte aux années 90, avec l'attentat à Saint-Michel, à Port-Royal. Quand vous avez l'attentat dans les RER à Madrid en 2004, les Français, ça leur rappelle ce souvenir-là. Mais une fois encore, à cette époque-là, on peut se dire, voilà, ce sont des attentats de masse. Madrid, c'est 191 morts, donc tout le monde se sent concerné. Et en même temps, si on réfléchit bien, des gens qui vivent en dehors de l'Espagne, à l'étranger, mais dans des grandes capitales, qui prennent tous les matins les transports en commun, peuvent se dire, oui, là on frappe des RER à Madrid, on l'a fait auparavant à Paris, ça peut arriver demain à Rome. Mais un Espagnol qui va au travail en voiture, qui a une voiture avec chauffeur par exemple, qui travaille chez lui à domicile, va moins s'identifier, va moins se sentir directement menacé par les terroristes que ceux qui prennent leur transport en commun tous les jours.
La nouveauté, c'est peut-être la manière aussi de gérer l'information. C'était Margaret Thatcher qui parlait de l'oxygène médiatique dont il fallait priver les terroristes. Et peut-être que justement, actuellement, le débat qui se pose et dans l'opinion publique en général, c'est comment est-ce qu'on gère l'information? Est-ce qu'on donne libre accès à l'information et à qui, notamment aux enfants, aux adolescents? Est-ce qu'on ouvre BFM TV, justement, par exemple, pour avoir heure par heure ce qui se passe? Enfin, je pense que l'autre question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut savoir de l'attentat.
Gilles Clairvoy, Patrick Clairvoy, pardon. J'ai fait une synthèse entre Gilles Ferragu et vous. À propos de, alors, l'appréhension qui va modifier nos comportements, mais à contrario, là encore, moi j'avais été frappé il y a une quinzaine d'années, j'étais allé au Liban, et j'avais rencontré un certain nombre de jeunes qui me racontaient comment ils avaient traversé, eux, la guerre civile libanaise, et ils en avaient un souvenir presque émerveillé en disant c'était un moment de grande liberté. Est-ce qu'on peut aussi retrouver ça dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire finalement de gens qui se disent on ne sait pas ce que sera le lendemain parce que le risque est partout et donc vivons intensément la vie qu'on a aujourd'hui.
Oui, alors moi il se trouve que je suis allé en ex-Yougoslavie au moment du conflit et au moment où ça s'arrêtait. La population de Sarajevo était très nostalgique de l'intensité de la vie culturelle qu'ils arrivaient à mener dans un Sarajevo qui était pourtant dans des moments très difficiles. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la proposition, sur le discours qu'on a eu sur le « on ». On n'a pas d'existence physique, mais on a une existence virtuelle et importante, puisque par exemple, quand je dis « la nation », c'est du « on » que je dis. La nation a la même densité sociale ou psychologique que le mot « on ». Et finalement, on a besoin de faire vibrer en nous ce « on ». A besoin de réveiller en nous l'illusion que ce « on » sert à quelque chose. Et ce « on », c'est le groupe social. Et on en a vraiment besoin. Et c'est clair que de toute façon, le but du terroriste, c'est de nous toucher dans ce qui fait nos liens, dans les valeurs et dans les habitudes qui construisent nos liens.
Et bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gilles Ferragu, Patrick Clairvoy et Jérôme Truc. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr. à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe de l'émission, Fanny Richet, Céline Leclerc, Maya Neskovic, Cyril Bayer, Louis Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barré avec la prise de son Anthony Thomasson. Demain, un autre droit du travail est-il nécessaire? C'est la question que nous poserons à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, à Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne. Ce sera un débat en partenariat avec le journal La Croix. Juste après le rappel des titres, vous allez retrouver Mathilde Serrel et Martin Kenéen, qui sont déjà en studio pour leur ping-pong avec leurs invités, j'imagine. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé. Ce soir, nous recevons le rappeur Utile, comme il le dit, This is La Peste, pour son 11e album pacifique, au-delà de la barrière de corail du rap game.
Et à ses côtés, nous recevons le photographe aventurier, explorateur, Pierre de Vallombreuse, qui s'apprête à recevoir le prix Albert Kahn.
A tout de suite à tous les deux. On vous retrouve donc après le rappel des titres.